Première partie. Chapitre 1. C'était curieux. L'obscurité qui l'entourait n'était pas l'obscurité immobile, immatérielle, négative, à laquelle on est habitué. Elle lui rappelait plutôt l'obscurité presque palpable de certains de ses cauchemars d'enfant. Une obscurité méchante, qui certaines nuits l'attaquait par vagues ou essayait de l'étouffer. « Vous pouvez vous détendre. » Mais il ne pouvait pas encore remuer. Respirer seulement, ce qui était déjà un soulagement. Son dos était appuyé à une cloison lisse dont il n'aurait pu déterminer la matière et contre sa poitrine nue pesait l'écran dont la luminosité permettait de deviner le visage du docteur. Peut-être était-ce à cause de cette lueur que l'obscurité environnante semblait faite de nuages mous et enveloppants. Pourquoi l'obligeait-on à rester si longtemps dans une pose inconfortable, sans rien lui dire? Tout à l'heure, sur le divan de cuir noir dans le cabinet de consultation, il gardait sa liberté d'esprit, parlait de sa vraie voix, sa grosse voix bourrue de la Seine et de la ville, s'amusait à observer Biguet, le fameux Biguet, qui avait soigné et soignait encore la plupart des personnages illustres. C'était un homme comme lui, à peu près de son âge, sorti de rien aussi. Un paysan dont la mère était jadis servante dans une ferme du Massif central. Il n'avait pas la voix de Maugin, ni sa taille, sa carrure, sa large gueule carrée, mais trapu, le poil hirsute, il sentait encore le terroir et continuait à rouler les airs. « Pouvez-vous rester exactement comme vous êtes pendant quelques minutes ?» Maugin dut tousser pour s'éclaircir la gorge et répondre que oui. Malgré sa demi-nudité et le froid contact de l'écran, des gouttes de sueur lui giclaient de la peau. « Vous fumez beaucoup ?» Il eut l'impression que le professeur posait cette question sans nécessité, sans conviction, seulement pour le mettre à l'aise, et se demanda s'il allait lui en poser une autre, plus importante, qu'il attendait depuis le début de la consultation. Ce n'était pas un rendez-vous comme un autre. Il était 7 heures du soir et la secrétaire du médecin était partie depuis longtemps. Maugin connaissait Biguet pour l'avoir rencontré 2 ou 3 fois à des premières ou à des réceptions. Tout à l'heure, brusquement, alors qu'il y pensait depuis des mois, il s'était décidé à lui téléphoner. « Ça ne vous ennuierait pas trop de jeter un coup d'œil sur mon cœur ?»« Vous jouez en ce moment, n'est-ce pas ?»« Chaque soir, avec matinée le samedi et le dimanche. »«
Vous tournez ?»
Tous les jours au studio des Buttes-Chaumont.
Cela vous arrangerait de passer chez moi entre 6h30 et 7h ?
Il s'était fait conduire par la voiture du studio comme d'habitude. Cette clause était stipulée dans tous ses contrats et lui économisait les frais d'une auto et d'un chauffeur, car il n'avait jamais appris à conduire.
Au Fouquet's, monsieur Émile ?
Les gens qui étaient en contact fréquent avec lui croyaient malin de l'appeler monsieur Émile, comme si le nom de Maugin était trop gros pour leur gorge. Certains qui ne l'avaient rencontré que 2 fois s'écriaient lorsqu'il était question de lui « Ah oui, Émile !» Il avait répondu « Non ». Il pleuvait. Enfoncé dans le capitonnage de la voiture, il regardait d'un œil glauque les rues mouillées, les lumières déformées par la glace, les vitrines, pauvres d'abord d'une banalité laide, des quartiers populeux, crèmeries, boulangeries, épiceries et bistrots, surtout bistrots, puis les magasins plus brillants du centre. Tu me déposeras au coin de boulevard Haussmann et la rue de Courcelles. Comme par hasard, alors qu'il traversait la place Saint-Augustin, la pluie se mettait à tomber si de rue, en grosses gouttes rebondissantes, que le pavé ressemblait à la surface d'un lac. Il avait hésité. C'était facile d'arrêter la voiture en face de la maison du professeur, mais il savait bien qu'il ne le ferait pas. Il était 6 heures quand il avait bu 2 verres de vin dans sa loge du studio, et déjà le malaise commençait. Un vertige, une angoisse dans la poitrine, comme jadis quand il avait faim. « Vous descendez ici ?» Le chauffeur était surpris. Il n'y avait au coin de la rue que le magasin d'un tailleur dont les volets étaient fermés. Mais quelques maisons plus loin, dans la rue de Courcelles, Maugin reconnaissait la devanture mal éclairée d'un bistrot pour chauffeur. Il ne voulut pas y entrer devant Alfred. Attendit un moment debout, énorme, au coin du boulevard,
avec de l'eau qui emplissait déjà le bord relevé de son chapeau et ruisselait sur ses épaules. La voiture s'éloigna, mais ce fut pour s'arrêter quelques mètres plus loin. Justement, en face du bistrot dans lequel Alfred, tête basse, les épaules rentrées, se précipita. Sans doute avait-il soif, lui aussi, ou besoin de cigarettes. Au moment de pousser la porte, il s'était tourné dans la direction de Maugin, et celui-ci, par contenance, se dirigeait vers la première porte cochère comme si c'était là qu'il avait affaire. Puis, l'ayant franchi, attendit, dans l'obscurité du porche, que la voiture s'éloigna. Après, il était entré au bar où les conversations avaient cessé. Tout le monde avait regardé en silence le grand Maugin qui, la moue maussade, la voix enrouée, grognait « Un rouge ».
« Un Bordeaux, monsieur Maugin ?»«
J'ai dit un rouge. Vous n'avez pas de gros rouge ici ?» Il en avait bu deux verres. Il en buvait toujours deux, coup sur coup, chacun d'un trait, et il avait dû déboutonner son pardessus pour prendre la monnaie dans sa poche. Est-ce que le docteur Biguet avait senti son haleine tout à l'heure lorsqu'il l'auscultait ? Est-ce que, comme les autres, il lui poserait la question ? Se rendait-il compte que depuis que Maugin avait le torse coincé entre deux surfaces rigides et que l'obscurité faisait de lui un aveugle, il n'était plus deux hommes à égalité ? Il devait en avoir l'habitude. Les autres, le président du conseil, les grands capitaines d'industrie, les académiciens, les hommes politiques et les princes étrangers qui faisaient le voyage pour le consulter, étaient-ils d'une patte différente ? Respirez normalement, sans effort. Ne bougez surtout pas la poitrine. D'abord, il n'y avait eu que deux bruits dans la pièce. Le souffle régulier du médecin et le tic-tac de sa montre dans la poche de son gilet. Maintenant, dans l'univers des nuées noires, on entendait un curieux grattement que Maugin n'identifia pas tout de suite et qui lui rappela le grincement de la craie sur le tableau noir dans l'école de son village. Il baissa la tête avec précaution. Aperçu comme un ectoplasme, le visage attentif, la main laiteuse du professeur, et comprit qu'il était occupé à dessiner sur la plaque fluorescente ou sur une feuille transparente qu'il y avait appliquée.
« Vous n'avez pas froid ?»«
Non. »«
Vous êtes né à la campagne ?»«
En Vendée. »«
Bocage ou marais ?»«
Tout ce qu'il y a de plus marais. Marais mouillé. »
Un peu plus tôt, dans le cabinet de consultation, cela se serait probablement passé autrement. Maugin était assez curieux du professeur qui, dans sa sphère, était à peu près aussi éminent que lui dans la sienne. Il ne l'avait pas fait exprès de s'arrêter un instant sous la voûte et d'examiner la loge de la concierge. Car ici, c'était une concierge, alors que chez lui, avenue Georges V, c'était un homme en uniforme prétentieux. Il gardait encore l'esprit libre, à ce moment-là. Un peu trop libre, même. Peut-être parce qu'il tenait à se prouver que son cœur ne le préoccupait pas outre mesure. Rien que le fait d'habiter le boulevard Haussmann était un signe. Cela sentait davantage la vraie bourgeoisie, celle qui se sait solide, qui n'a plus besoin de jeter de la poudre aux yeux, qui se préoccupe davantage de son confort que des apparences. Il n'y avait pas de colonne corinthienne dans le hall, et l'escalier n'était pas en marbre blanc, mais en vieux chêne couvert d'un épais tapis rouge. Seul dans l'ascenseur, il en avait profité pour souffler sur la paume de ses mains et la respirer ensuite, afin de s'assurer qu'il ne sentait pas trop la vinasse. Cela constituait un hommage de la part de Biguet de lui avoir donné rendez-vous en dehors de ses heures habituelles, sans sa secrétaire, sans son assistante. Avait-il compris que Maugin ne pouvait risquer de voir les journaux du lendemain annoncer qu'il était gravement malade ? Ce n'était pas non plus la domestique qui lui avait ouvert la porte, mais le docteur en personne qui portait un veston d'intérieur en velours noir et semblait ainsi accueillir un ami.